À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera de question de Blaise Pascal. Plusieurs personnes attendent cette émission. Ils aiment beaucoup Pascal, qui est mort en 1662. C'est un très grand scientifique à son époque, mathématicien. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de cette fameuse nuit de feu qui l'a transformé, qui a été vraiment à la source de cette immense conversion de Pascal, et qui était catholique déjà, mais disons qu'il était bien mondain, et qu'il s'est considéré après sa conversion comme ayant été bien superficiel. Blaise Pascal, tel fils d'Étienne Pascal. Étienne Pascal était président de la Cour des aides de Clermont, en France. Et Blaise Pascal est né dans cette ville de Clermont le 19 juin 1623. Je vous ai dit qu'il est mort en 1662. Comme vous voyez, il n'a pas vécu longtemps. 39 ans. Et il n'avait pas 3 ans quand il a perdu sa mère. Sa mère était épuisée par des maternités et des nuits, passer aussi auprès de lui à le veiller, car il était malade, cet enfant. Déjà, un étrange mal s'est emparé du corps de Blaise Pascal. Il a des convulsions qui tiennent toute sa famille en état d'alerte autour de lui. En 1630, soit 7 ans plus tard, son père, Étienne Pascal, vend sa charge à Clermont, puis il vient résider à Paris avec ses enfants. Alors il s'occupe aussitôt de l'éducation de son fils, dont il semble avoir deviné qu'il y avait là quelque chose d'un peu spécial, comme un génie. Son fils pouvait peut-être déjà à 7 ans avoir les traces d'un génie. Un jour, son père le trouve d'ailleurs occupé à démontrer la 32e proposition du premier livre d'Euclide. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent ça, et moi je n'y connais pas grand-chose, c'est la somme des angles d'un triangle qui est égale à 2 droits. Je me souviens d'avoir appris ça, mais j'ai tout oublié. On admet Blaise Pascal a participé à des discussions avec des savants très illustres, des mathématiciens très connus qui fréquentaient la maison, comme Roberval, c'est Gilles Personnier de Roberval, un grand mathématicien. Et puis il y a aussi le père Mersenne, c'est l'abbé Marin Mersenne, c'est un philosophe, un mathématicien, un ami de Descartes. Et c'est lui qui a mesuré la vitesse du son, ce fameux père Mersenne. Donc, à 16 ans, Pascal met au point une machine arithmétique. Et le texte ancien nous dit par laquelle on fait toutes sortes de supputations sans plumes et sans jetons. En même temps, il écrit un traité des sections coniques en 1639. Il est tout jeune, 16 ans. De 1640 à 1647, son père Étienne Pascal, qui est nommé commissaire du roi à Rouen, vit avec ses enfants en Normandie. Rouen, comme vous savez, c'est en Normandie, et le mal de Blaise Pascal empire. Il est de plus en plus malade. Ça l'oblige bientôt à marcher avec des béquilles. Mais il s'est converti avec tous les siens en 1646, s'est converti avec tous les siens au jansénisme, dont l'enseignement lui semble une réponse à son angoisse. Ça lui prend quelque chose de plus strict, ça leur prend quelque chose de plus strict, et même à lui qui est encore jeune. La religion, alors, l'éloigne du monde. C'est très malsain quand la religion nous éloigne du monde. Elle doit nous éloigner du monde, oui, mais pas nécessairement de façon catastrophique. mais elle ne l'éloigne pas de la science. En 1648, Blaise Pascal se livre à des expériences sur le vide, d'abord au sommet de la Tour Saint-Jacques à Paris, puis au puits de Dôme, au sud. Là. Et cependant, c'est très beau le puits de Dôme, c'est des régions magnifiques, ça. Et cependant, revenu à Paris en 1650, Pascal, à 27 ans, il noue de nouvelles amitiés, puis il se lie avec quelques personnes qu'il décrit comme imbues de l'esprit du monde après sa conversion, comme un duc, puis le chevalier de Méret, puis finalement la mort de son père le 24 septembre 1651 le frappe. Comme aussi, deux ans plus tard, l'entrée de sa sœur qu'il aime beaucoup, Jacqueline, qui entre au couvent de Port-Royal et qui multiplie les conversations avec lui. Il se visite beaucoup. Elle cherche vraiment à l'arracher à ses fréquentations qu'elle juge dangereuses pour son âme. Mais quand même, Pascal continue ses recherches scientifiques et les ouvrages se suivent. Un sur l'équilibre des liqueurs, l'autre sur la pesanteur de la masse de l'air, un autre sur le triangle arithmétique et encore sur les ordres numériques, 1654. Mais arrive dans la nuit du 23 au 24 novembre 1653, alors qu'il a 30 ans, une nuit extraordinaire. Il a une extase, et pendant 2 heures, donc de 10h30 le soir jusqu'à minuit et demi, au 24 novembre, l'anniversaire aujourd'hui, il sent ce qu'il appelle la main de Dieu qui pèse doucement sur lui. C'est la révélation de la grâce. Il est comme brûlé par un feu surnaturel. Et il jette quelques mots hachés sur un petit parchemin qu'il ne quittera plus parce qu'il va le coudre. Il va le porter dans la doublure de son pourpoint. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mémorial. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors aujourd'hui, nous allons surtout parler de ce mémorial et de cette nuit du 23 au 24 novembre 1653. Revenons un peu en arrière, vers la mi-septembre 1653. Il a 30 ans, je vous le rappelle. Un mois avant d'écrire une lettre très importante à son grand ami Fermat, un mathématicien, Pascal, comme il en a l'habitude, rend visite à sa sœur Jacqueline au parloir de l'abbaye de Port-Royal de Paris. Puis juste en banlieue de Paris. Pour leurs entretiens avec leurs tout proches parents, les religieuses peuvent ouvrir la grille. Et ça fait qu'ils peuvent avoir une conversation plus intime. Et ce jour-là, comme chaque fois, Pascal échange avec sa sœur des nouvelles de famille. Il la tient au courant de ses travaux. Puis le ton change. On peut se référer d'ailleurs à ce qu'en a écrit sa sœur Jacqueline la religieuse. Voici son texte. « À cette visite, Blaise s'ouvrit à moi d'une manière qui me fit pitié, en m'avouant qu'au milieu de ses occupations qui étaient grandes, et parmi toutes les choses qui pouvaient contribuer à lui faire aimer le monde, et auxquelles on avait raison de le croire fort attaché, il était de telle sorte sollicité de quitter tout cela, et par une aversion extrême qu'il avait des folies et des amusements du monde, et par le reproche continuel que lui faisait sa conscience, qu'il se trouvait détaché de toute chose d'une telle manière qu'il ne l'avait jamais été de la sorte, ni rien d'approchant. Mais que d'ailleurs, il était dans un si grand abandonnement du côté de Dieu qu'il ne sentait aucun attrait de ce côté-là. Qu'il s'y portait néanmoins de tout son pouvoir, mais qu'il sentait bien que c'était plus sa raison et son propre esprit qui l'excitait à ce qu'il connaissait le meilleur » que non pas le mouvement de celui de Dieu, et que dans le détachement de toute chose où il se trouvait, s'il avait les mêmes sentiments de Dieu qu'autrefois, il se croyait en état de tout entreprendre, et qu'il fallait qu'il eût eu en ces temps-là d'horribles attaches pour résister aux grâces que Dieu lui faisait et aux mouvements qu'il lui donnait. Comme vous voyez, sa sœur, dans ce style admirable de cette époque, avec ses phrases extrêmement longues, c'est de toute beauté, décrit bien l'état dans lequel il se trouve. Il est attiré, c'est-à-dire il a le dégoût des futilités, mais il voudrait se jeter dans les bras de Dieu, mais il n'a pas d'attrait. Il sait que c'est sa raison, son esprit, qui l'incite à se convertir, mais il n'y arrive pas. Alors l'entretien prend fin entre Jacqueline et Blaise, et le frère et la sœur assistent à l'office de vêpres, l'un sous la petite coupole où se tiennent les visiteurs et l'autre derrière la grille qui est aujourd'hui rouillée. Et depuis ce jour d'automne, la saison la plus douce de toutes, là-bas, à l'Île-de-France, c'est beau l'automne là-bas, les arbres prennent une autre couleur qu'ici, c'est des couleurs de violacé, doré, c'est différent. Et Pascal revient souvent, presque tous les jours, y voit sa sœur, et les conversations se prolongent. Jacqueline écrit, si je les racontais toutes, il faudrait en faire un volume. Chaque fois, Blaise Pascal confie son découragement, son orgueil. Il lui répugne de se mettre sous la conduite d'un prêtre en vue d'une vraie confession. Non celle qu'il fait d'habitude à Pâques du bout des lèvres, mais une remise totale de lui-même. Et avec sa sœur, il a abandonné toute pudeur. Mais il ressent cette sorte d'effroi que connaissent bien ceux là, qui prennent la vie religieuse au sérieux. « C'est pas facile, se dit Pascal, de se montrer à un autre en pleine vérité. » De dire qu'on n'est pas le jeune et brillant savant Blaise Pascal, ce physicien célèbre qui a toujours raison, l'ami d'un très riche duc et le familier des salons les plus distingués. Ah, c'est pas facile d'avouer, de n'être que ce pauvre pécheur, sans gloire, dont il est souvent question, n'est pas dans les bouquins de piété, on décrit ce que c'est qu'un pécheur. Et puis, il va falloir réciter des chapelets. Il va falloir se heurter à l'aigreur et à l'étroitesse des hommes d'église, les prêtres, les prélats et les monseigneurs, à leur sotte prétention d'être infaillibles sur tous les sujets. Il lui faudra se perdre dans la foule des sacristains, dit-il, être ridicule dans ce troupeau marmonnant de ceux qui renoncent à tout, parce qu'ils n'ont rien à quoi renoncer. C'est méchant, hein? Mais Jacqueline comprend merveilleusement son grand frère orgueilleux et blessé, et elle voit grandir en lui la grâce à vue d'œil. Ah, c'est ce qu'elle dit dans son témoignage vraiment pathétique, et elle obtient de lui qu'il fasse une démarche auprès de Monsieur Singlin, le confesseur des religieuses, et vous allez voir que ce monsieur Antoine Singlin, un janséniste, va avoir raison de Blaise Pascal. Écoutons pour l'instant de Marc-Antoine Charpentier, ce très grand compositeur de musique religieuse, Messe pour le Port-Royal. C'est Domine Salvum Fac Regem. que c'est beau du Marc-Antoine Charpentier. Salvum fac regem, dominé, sauve le roi. C'était évidemment le roi de France. On ne demande pas à Dieu de sauver le Christ roi, mais j'aurais tendance à prier de ce côté-là, parce que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est bien faible dans notre pauvre pays et dans tout l'Occident. Alors revenons sérieusement là, M. Singlin, S-I-N-G-L-I-N. Ce M. Singlin, Antoine Singlin de son prénom, c'est un prêtre d'origine très modeste. Il est confesseur des religieuses de Port-Royal. C'était le fils d'un marchand de vin. Il avait alors une cinquantaine d'années. Il avait un visage brun et sec, dit-on. Il respirait l'austérité aussi. Un bon janséniste, comme vous voyez. Et monsieur de Saint-Cyran, dont je vous ai déjà parlé, hein, monsieur Duverger, Doran, abbé de Saint-Cyran, je vous ai fait une émission sur lui il y a un an, le 11 octobre 1996. Hein. C'est Henri Bremont qui m'avait convaincu par ses écrits au début du siècle. Il disait de Saint-Cyran que c'était un génie et un saint manqué. C'est pour ça que je vous en avais parlé. Alors donc, monsieur de Saint-Cyran en avait fait de monsieur Singlin son disciple de prédilection. On dit qu'il n'était pas très intelligent, ni cultivé. Mais, comme un bon prêtre, il tenait de son maître une haute, dit-on, et inflexible conception, là, une haute idée des droits puis des devoirs du sacerdoce. C'est ce qui manque peut-être à certains de nos prêtres, on les a tellement diminués. Ah, si les prêtres, tous, avaient une plus haute idée de ce qu'ils sont. Et si on leur disait, puis si on les respectait dans ce sens-là, de ce respect spirituel profond, ça changerait bien des choses, il me semble. Alors, il exigeait, ce monsieur Singlin, il exigeait de ses pénitents une soumission absolue. Et suivant sa méthode, il a commencé par rabrouer Pascal. Bon, pas nécessairement une bonne façon d'agir, mais c'est ce qu'il faisait. Puis, il se retire ensuite en lui recommandant des bonnes choses, de lire la Bible, de prier, de méditer et, si possible, de faire une retraite fermée. Alors, M. Singlin quitte Paris pour se rendre à Port-Royal. C'est tout près. Port-Royal des Champs. Et c'est en son absence que se produit, dans la nuit du 23 au 24 novembre, l'événement le plus pathétique de la vie de Blaise Pascal. Ce soir-là, Pascal s'est retiré dans sa chambre, chez lui, rue des Francs-Bourgeois Saint-Michel, à Paris. Il a ouvert sa Bible, une grosse Bible, une folio, là, dans la traduction des théologiens de Louvain, belle traduction ancienne, différente de ce qu'on lit aujourd'hui, qui a vraisemblablement déjà appartenu à son père, Étienne Pascal. Et il y lit le récit de la Passion du Christ. C'est une langue nerveuse, hein? Majestueuse. C'est la langue du XVIe siècle. Je vous lis le texte qu'a lu Pascal, tel quel. Le voici. Jésus dit ces choses, puis élevant les yeux au ciel, dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'il donne vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et cette est la vie éternelle, qu'il te connaisse, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai parachevé l'œuvre que tu m'as baillé à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes, lesquels tu m'as donné du monde. Ils étaient tiens, et tu me les as donnés, et ont gardé ta parole. Et maintenant je viens à toi, et dis ces choses au monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Père, je veux que tu m'as donné, Je veux que ceux que tu m'as donnés, là où je suis, ils soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, laquelle tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, et je leur ai baillé à connaître ton nom, et leur ferai connaître, afin que l'amour duquel tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Alors Pascal lisait plus loin. « Or la chambrière de la porte dit à Pierre, « N'es-tu point aussi des disciples de cet homme ?» Il se lui dit, « Je n'en suis point. » Et Pascal lisait encore, « Pilate amena Jésus dehors et s'assit au siège judicial, au lieu appelé pavement, et en hébreu, Gabbata. Or était-il lors la préparation de Pâques, environ 6 heures. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais il criait, « Hoste, hoste, crucifie-le. » Et celui, portant sa croix, vint en la place qu'on appelle Calvaire et en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres d'un côté et d'autre, et Jésus au milieu. Alors au fur et à mesure qu'il lisait, Pascal voyait la scène se dérouler sous ses yeux, comme il la reverra si souvent. Hein? Judas sort de la pièce pour trahir Jésus, et Pascal sait bien qu'il a trahi lui aussi. C'est dans sa chambre qu'il entend Pierre renier Jésus. Ce n'est point Pierre, c'est lui, Blaise Pascal. Le cortège lamentable du crucifié traverse la rue des Frambourgeois Saint-Michel dans la nuit d'hiver. Jésus est traîné par une corde, il s'écrase sous la croix. La foule crache et hurle. Oh, elle est là, je suis là avec elle, pense Pascal. Je ris avec elle, je renie, je m'amuse, je joue au dé comme les soldats. Puis on couche la croix par terre et on étend sur elle le corps de Dieu. Un soldat lève le marteau pour enfoncer le clou dans la chair rétractée. Non, ce n'est pas un soldat. Pascal a reconnu sa propre main. Et le marteau s'abat. Il entend un faible cri. D'un coup, les larmes jaillissent de ses yeux. Il pleure sourdement. La porte est fermée à clé. Il est seul. On ne peut l'entendre. Il pleure. Mais s'il pleure, c'est qu'il ressemble à Pierre. Le coq chanta pour la seconde fois et il souvint à Pierre de la parole que Jésus lui avait dite. « Devant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et il commença à pleurer. Si Pascal pleure, c'est qu'il est pardonné. Jésus a eu pitié de lui. Il lui a donné la grâce du repentir et des larmes. Il est près de lui. Cette grâce, il la ressent. Elle lui brise le cœur. Et à la fois l'inonde de cette joie promise par Jésus à ses disciples dans l'évangile de Saint Jean. Pascal voit tout dans une lumière nouvelle. Jusqu'ici, c'était par la réflexion du philosophe et du savant qu'il cherchait Dieu. Il n'atteignait par là que le Dieu idéal de Descartes. Et là, il découvre maintenant Jésus-Christ. Et le Dieu vivant de Jésus-Christ qui se manifeste par la charité dans le cœur. Il pleure de joie. Il regarde sa montre. Il avait toujours une montre à son poignet gauche. Il regarde sa montre. Il est 10h30. Bouleversé, ardent et fiévreux. Sur une feuille de papier, glissée dans sa Bible, il trace une petite croix. Puis il met la date chrétienne du martyrologe, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusque... Alors il songe à cette révélation du Dieu du cœur et de la charité qu'il vient de recevoir. La première révélation, on la trouve dans le Vieux Testament, hein, l'apparition de Moïse, du buisson ardent, hein, vous vous souvenez, ce feu qui se manifestera si souvent dans la Bible, jusqu'à la Pentecôte, hein, et langue de feu. Et c'est à la fois la flamme du Sinaï et le Saint-Esprit promis aux apôtres. Et Pascal écrit « Feu ». F-E-U, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non des philosophes et des savants. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublié du monde et de tout hormis Dieu. Alors comment sceller cette union avec le Dieu de Jésus-Christ? Comment oublier le monde, sinon en s'appuyant sur le gros livre que Pascal a ouvert devant lui et à la lecture duquel il vient d'être fait prêt par la grâce? Alors Pascal écrit, « Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu. Joie, 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 pleure de joie. » Alors faisons une pause pour écouter un peu de Marc-Antoine Charpentier. Nous en sommes au moment où Pascal a repris l'Évangile pour y copier la phrase qui condamne le monde dans lequel il a vécu. Jésus-Christ lui-même lui affirme qu'il ne connaissait point Dieu, mais maintenant il le connaît. Connaître Dieu? Oui, Jésus nous dit ça. Alors son émotion à Pascal et sa joie vont en croissant. C'est la joie dont il est si souvent question dans le discours après la scène. Vous connaissez ça, hein, le jeudi saint au soir, là, après avoir institué l'Eucharistie, où il nous donne son corps vivant et ressuscité. Là. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Que votre joie soit pleine. Vous donc aussi avez maintenant tristesse, mais je vous verrai de rechef, et votre cœur se jouira, et personne ne vous ôtera votre joie. Je vous lis le texte que Pascal a lu lui-même à son époque, c'est la traduction de Louvain. Mais brusquement éclate un cri qui vient troubler la joie de Pascal. Il écrit « Je m'en suis séparé ». Là, c'est le déchirement de son cœur. Il s'est séparé de cette joie qui lui était promise. Alors ici commande la seconde strophe de cette prière qui mêle à la joie cette torture du remords. Pascal s'est séparé de Jésus-Christ. Il a fait partie du monde. Les futilités, les conversations inutiles, l'insignifiance, l'idiotie, les préoccupations absurdes, pendant que tant de gens ont besoin de nous. Pendant que tant de gens souffrent, et ce souvenir le bouleverse, tous ceux qui ont crié, que le centre de l'émotion de Pascal avait été le feu, se sont trompés. C'est ce que dit Jean Steinman. S'il n'y a plus de feu, écrit Bremont, il n'y a plus de certitude. Et Steinman se dit qu'il se trompe en disant ça. Parce que Bremont ajoute, et s'il n'y a plus de certitude, il n'y a plus de joie. Ces lignes sont un défi. C'est un défi au témoignage du texte quand on le lit comme il faut, le texte qu'il a écrit, Pascal. Parce que le mot certitude y est ajouté après coup. Le feu n'y est évidemment qu'une référence au texte biblique de l'Exode, là. Le feu du buisson ardent. Écrite d'une plume bien sage, d'ailleurs, parce que l'écriture change quand il écrit. C'est à partir seulement de la mention de séparation d'avec Jésus-Christ que l'écriture se met à témoigner d'une émotion intense, à trahir le tremblement du corps tout entier de ce pauvre Blaise Pascal. Sa main écrase alors les lettres qui s'empâtent, les mots restent informes, inachevés. On dirait que c'est sténographié même. Les syllabes fusent en pointe, hein? Puis les phrases que Pascal n'arrive plus à écrire s'aplatissent en gros traits ou sont remplacées par des espèces de crochets fiévreux. C'est pas facile à lire dans le manuscrit original. La main se reprend, elle s'agrippe au papier comme celle d'un noyé. Et jusque-là, il ne s'agissait que de notes pieuses, on peut dire, même quand il écrit « feu », là. Mais maintenant, il s'agit du témoignage autographe d'une extase. Le texte exprime comme un appel anxieux et rythmé sous la forme d'une litanie tragique. Une litanie tragique qui fait penser au style, n'est-ce pas, des prières de Charles Péguy, hein? Je vous ai fait deux émissions sur Charles Péguy déjà, du début du mois de septembre. Il écrit Blaise Pascal, ce qui suit d'une façon tragique. Je m'en suis séparé. De reliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie. Cette, c'est C-E-2-T-E. Ils commencent leur phrase comme ça dans ce temps-là. Cette est la vie éternelle. Qu'il te connaisse seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, J.C. Jésus-Christ. Il ajoute Jésus-Christ. Il ajoute ensuite Jésus-Christ encore. Je m'en suis séparé. Que je n'en sois jamais séparé. Après coup, Pascal ajoute, je l'ai fui, comme les apôtres, renoncer, comme Saint-Pierre, crucifier, comme les Juifs. Pascal n'est pas un illuminé, comme l'a cru Henri Bremont. Il n'a pas été illuminé par une sorte de certitude janséniste de son salut. Au contraire, il est anxieux, hein, de conserver une grâce qu'il bouleverse, mais qui peut être fugitive, hein. On reçoit tellement de grâces dans notre vie, il paraît que nous sommes inondés de grâces, disent certains auteurs. Mais elles sont fugitives, nous ne les retenons pas, nous sommes tellement légers, tellement futiles, tellement orgueilleux, tellement peu humbles. Mais son inquiétude s'apaise. Il a sous la main la grosse Bible, qui vient probablement de son père et qui contient le secret de sa persévérance. Au début de sa méditation, il avait écrit de Dieu, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Et alors, tout à fait apaisé, il conclut maintenant, il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Pascal a découvert le bonheur que lui offre Jésus-Christ. Il peut terminer d'une écriture paisible, renonciation totale et douce. La renonciation totale est très douce. C'est ce que disent tous ceux qui la pratiquent. Puis, à minuit, il complète son texte. Il y ajoute la mention du martyrologe, l'heure de la fin de son extase. Environ minuit et demi, nous sommes donc au 24 novembre. Il complète une citation de l'Évangile. Après « Père juste, le monde ne t'a point connu », il ajoute « Mais je t'ai connu ». Après « Dieu d'Abraham, nom des philosophes », il insère, d'une autre écriture que le reste, cette petite phrase qui est évidemment une surcharge « Certitude, certitude, sentiment, joie, paix ». Certitude non de son salut, mais de la présence de Dieu. Comme Moïse au Sinaï, puis les apôtres après la scène. Certitude d'avoir reçu une grâce de choix. Certitude d'avoir conquis la joie et la paix de l'âme. C'est curieux jusqu'à quel point l'homme est mystérieux et déconcertant. Au lendemain de cette nuit mystique, écoutez bien, au lendemain de sa nuit où il y a eu ses larmes de joie, qu'est-ce qui arrive? Pascal se retrouve le même qu'auparavant, toujours en proie au respect humain. Il pense à ce que les autres vont penser. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Faut se conformer pour pas avoir l'air d'un trop grand catholique. Faut pas avoir l'air d'un homme à part, de quelqu'un qui adhère à Jésus-Christ et qui l'aime. Faut faire attention. Pauvre Pascal. Alors, comme M. Singlin est à Port-Royal, des Champs, il se résout à faire le voyage. Mais, nous dit Jacqueline, dans sa sœur, dans ses textes, il eut une merveilleuse appréhension, conçue qu'il eut communication avec autre qu'avec moi dans cette maison. Alors là, Pascal imagine un stratagème. Blaise Pascal va prétexter d'une affaire qui l'oblige à un voyage. Il va changer de nom. Il va laisser ses domestiques, car il en a, et sa voiture dans un village proche de Chevreuse. Puis là, il va aller à pied rendre visite à M. Singlin, Antoine Singlin, de sorte que, comme dit le texte, personne ne pourra savoir ses entrevues. Alors, Singlin, mis au courant du projet, refuse cette visite qui est camouflée, et il écrit à Blaise Pascal une lettre par laquelle il nomme sa sœur Jacqueline sa directrice. Directrice spirituelle, c'est assez curieux, hein? Alors, sœur Jacqueline, par une lettre du 8 décembre, en prévient sa propre sœur, Gilberte, qui est mariée, « Il n'est pas raisonnable que vous ignoriez plus longtemps ce que Dieu opère dans la personne qui nous est si chère, leur frère, évidemment. Il est tout rendu à la conduite de Monsieur S., Monsieur Singlin. Et j'espère que ce sera dans une soumission d'enfant. Je remarque en lui... Et c'est très beau ce qu'elle dit, Jacqueline. Je remarque en lui une humilité et une soumission, même envers moi, qui me surprend. Alors, à la fin de décembre, M. Singlin rentre de Port-Royal-des-Champs. Il a un entretien avec Pascal. Pascal lui fait certainement la confidence de ce qui s'est passé durant la nuit du 23 au 24 novembre. C'est peut-être alors que Pascal reprend le texte du mémorial pour le recopier sur un parchemin. Et cette copie est perdue. Mais il en existe encore un fac-similé qui est dû à la plume de Louis Perrier, son beau-frère, et le texte de l'autographe y paraît singulièrement enjolivé par Pascal. La croix du début de la page est maintenant entourée de rayons. Le mot « feu » est écrit en grosses lettres capitales, ce qui a donné cours à une hypothèse qui a été reprise par Henri Bremond, très grand auteur sur les questions spirituelles, hein? Histoire du sentiment religieux en France, une série d'ouvrages que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque. S'il y a quelqu'un qui veut m'en vendre, je serais très heureux, Henri Bremond. Alors, c'est l'hypothèse d'une vision fulgurante. Pourquoi ces lettres majuscules? C'est que pour Pascal, le feu, F-E-U, est synonyme de Dieu. Mot écrit, lui aussi, en grosses lettres. Et sur le nouveau texte se trouvent les références bibliques, là. Les traits brusques terminent certaines phrases du texte original autographe. C'est des signes d'une vive émotion. Si on peut voir ça, ça peut intéresser les calligraphes, là. Sont soigneusement reproduits sur la copie, mais tirés à la règle, ils perdent tout sens et paraissent artificiels. De toute façon, Pascal a plié les deux feuilles. Il les avait fait coudre dans la doublure de son pourpoint, comme je vous ai dit, et c'était une habitude alors. Saviez-vous que Richelieu, dont je vais vous parler bientôt, a fait ça? Saint-Vincent de Paul, dont je vous ai parlé, Saint-Jean de Chantal aussi, dont je vous ai parlé, portait de même un écrit cousu dans leur habit. Pascal va donc garder ses papiers jusqu'à sa mort. Il lui suffisait dorénavant de mettre la main sur le bord craquant de son habit pour se rappeler la grâce et l'extase de cette nuit de novembre. Puis après sa mort, on va retrouver les deux papiers cousus dans sa veste. Faisons une pause et écoutons de Marc-Antoine Charpentier, ce grand compositeur français d'œuvres religieuses qui est décédé en 1704. C'est extrait de la messe pour le Port-Royal. C'est Laudate Domini. Venons à Blaise Pascal, qui risque, après toute cette conversion extraordinaire, cette espèce d'extase, cet élan qu'il ressent jusqu'au tréfonds de son être, il risque de retomber dans les divertissements et les distractions mondaines. Alors, M. Singlin, le prêtre confesseur, là, qui lui conseille de faire une retraite près de Port-Royal des Champs, où est sa sœur Jacqueline. Pascal parle de son projet à un ami. Il lui confie ce secret. Et avec son consentement, qui n'est pas donné sans larmes, il part le lendemain de la fête des rois, c'est-à-dire le 7 janvier 1655. Pascal, on le voit, tient encore au secret. C'est pas facile. Je rencontrais il y a quelques jours au Salon du Livre, un bon ami depuis longtemps, qui a toujours été un intellectuel remarquable et qui s'est converti récemment, mais ça le gêne, dit-il. Mais je le comprends, dans un certain sens, c'est pas facile. Alors Pascal veut ménager ses hautes relations, ne pas renoncer à tout. Il est si intimement lié à ses amis qu'il lui faut le consentement du duc, son grand ami. Il va loger au château de Vaumurier, proche de l'abbaye, parce qu'il n'ose pas loger à l'abbaye, et puis ce château appartient au fameux duc de Luynes. Mais il trouve la solitude insuffisante dans ce château. Alors il demande, enfin, une cellule aux granges de Port-Royal, là où il y a des solitaires. Puis il y passe tout le mois de janvier dans un désir profond de conversion totale. C'est donc dire que cette nuit de feu mène Pascal à Port-Royal des Champs et il décide d'écrire un vaste ouvrage destiné à confondre les incroyants et à les convaincre de la vérité du christianisme. Alors il prend des notes. Mais voilà que les pensionnaires de Port-Royal, les solitaires, qui sont ses amis, sont condamnés par le Saint-Siège, qui a pensé découvrir dans Jansénius 5 propositions hérétiques, parce qu'ils dépendent de la pensée de Jansénius. Pascal prend la défense de la petite communauté et publie dans le courant de l'hiver, 1656, l'année suivante, donc, les lettres écrites à un provincial par un de ses amis. C'est le provincial des Jésuites. J'ai lu ça il y a des années. C'est pas piqué des vers. Hein. Alors, la tempête éclate. Pascal se cache. Sa maladie, cependant, redouble de gravité, puis malgré les souffrances qu'il endure, il se mortifie. Il porte sur lui une ceinture avec des clous. Étrange, hein, les conceptions qu'on avait dans ce temps-là. Il paraît que ça se pratique encore aujourd'hui, puis que ce serait pas mauvais si on est assez équilibré pour passer à travers ça sans en souffrir psychologiquement. Il se détourne de ses travaux scientifiques pour ne plus s'occuper finalement que de Dieu. Et il faut l'insistance, disons, sympathique, de ses amis pour le convaincre de donner encore un peu de son temps aux mathématiques. Il découvre d'ailleurs la solution du problème de la roulette. Il jette aussi les premières bases du calcul infinitésimal, puis il songe à créer une compagnie de transport en commun. Savez-vous que c'est lui qui a inventé ça, le transport en commun, dont les bénéfices reviendraient aux pauvres de Blois? C'était une société de bienfaisance qu'il voulait pour Paris. Et il faut lire ça, c'est intéressant, hein, ça, c'est la fondation de cette société de transport à Paris. En 1661, sa sœur Jacqueline meurt. Dieu, dit-il, nous fasse la grâce d'aussi bien mourir qu'elle. Il souffre tant qu'il doit renoncer à travailler et même à recevoir des gens. Dans l'été 1662, il est pris de maux violents dans les intestins. Les douleurs de sa tête deviennent absolument insupportables. Il demande un prêtre. Il meurt dans la nuit du 19 août 1662. À l'autopsie, on a trouvé une gangrène de l'intestin et dans la cervelle du sang caillé corrompu. Pascal disait, « Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. » Il mourait pourtant dans la certitude de l'éternité, ça c'est sûr. Il avait 39 ans. Il avait 39 ans. Je vous recommande quelques ouvrages avant de terminer. Dans Les Écrivains devant Dieu, publié chez Desclée de Brouwer, je crois que c'est encore en vente, c'est cette série admirable. Jean Ménard, M-E-S-N-A-R-D, a publié un Pascal. C'est des tout petits livres chez Desclée de Brouwer. C'est pas très long, 140 pages. C'est magnifique, magnifique. Il y a des illustrations, c'est souvent, c'est bien. Pascal de Jean Ménard dans la collection Les Écrivains devant Dieu chez Desclée de Brouwer. Il y a un gros Pascal qui a été publié il y a bien des années. Je ne crois pas que ce soit trouvable. C'est le Pascal de Jean Steinmann aux éditions du Cerf. Remarquable, dont je me suis beaucoup inspiré aujourd'hui. Mais vous pouvez le trouver aussi dans un livre qui vient de paraître il y a quelques jours, écrit par un Montréalais, Jean-Marc Piotte. Jean-Marc Piotte, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, a publié plusieurs ouvrages. Et celui-ci, c'est « Les grands penseurs du monde occidental ». Vous avez 30 penseurs du monde occidental. Alors, ça commence avec Platon, ça va à Aristote, Épicure, Cicéron, Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, Machiavel, Montaigne, Pascal, voilà. Et j'ai lu son Pascal, c'est intéressant pour savoir ce qu'il pensait sur différentes questions, et on est étonné. Ça n'a que 10 pages à peu près par personne, donc le livre a plus de 300 pages. Le livre a en fait 600 pages. Vous allez dire, ça doit coûter cher, 600 pages. Eh bien non, ça ne coûte même pas 35$, c'est surprenant, chez Fides. Donc, je répète, Jean-Marc Piotte, P-I-O-2-T-E, les grands penseurs du monde occidental qui vient de sortir. Jean-Marc Piotte, chez Fides. Pour la conversion, Pascal a écrit de très, très belles choses. Il dit que la première chose que Dieu inspire à l'âme qu'il daigne toucher véritablement est une connaissance. Et une vue tout extraordinaire par laquelle l'âme considère les choses et elle-même d'une façon toute nouvelle. Et cette nouvelle lumière lui donne de la crainte. Il lui apporte un trouble qui traverse le repos qu'elle trouvait dans les choses qui faisaient ses délices. Elle ne peut plus goûter avec tranquillité les choses qui la charmaient. Un scrupule continuel la combat dans cette jouissance. Et cette vue intérieure ne lui fait plus trouver cette douceur accoutumée parmi les choses où elle s'abandonnait avec une pleine effusion du cœur. Mais ce qui quitte l'alcool, la luxure, la bêtise, la niaiserie, hein, il trouve tout à coup un bonheur. Et dans ses réflexions nouvelles, elle entre dans la vue des grandeurs de son Créateur, l'âme, et dans des humiliations et des adorations profondes. C'est ce que Pascal écrit. Elle s'anéantit en sa présence et ne pouvant trouver d'elle-même une idée assez basse, ni en concevoir une assez relevée de ce souverain bien, elle fait de nouveaux efforts pour se rabaisser jusqu'aux derniers abîmes du néant en considérant Dieu dans des immensités qu'elle multiplie. Enfin, dans cette conception qui épuise ses forces, elle l'adore en silence, elle se considère comme sa vile et inutile créature, et par ses respects réitérés l'adore et le bénit, et voudrait jamais le bénir et l'adorer. Elle se résout de conformer à ses volontés le reste de sa vie. Mais comme sa faiblesse naturelle, avec l'habitude qu'elle a au péché où elle a vécu, l'ont réduite dans l'impuissance d'arriver à cette félicité, elle implore de sa miséricorde le moyen d'arriver à lui, de s'attacher à lui, d'y adhérer éternellement. Ainsi, elle reconnaît qu'elle doit adorer Dieu comme créature, lui rendre grâce comme redevable, lui satisfaire comme coupable, le prier comme indigente. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, a écrit Pascal, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, à Dieu de Jésus-Christ. C'est un bien beau texte que son mémorial.